Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Les violences faites aux femmes, le viol comme arme de guerre, voici les combats que le Nobel de la paix a choisi de mettre à l'honneur. Le docteur Mukwege, gynécologue qui répare les femmes victimes de viols massifs en République démocratique du Congo. Et Nadia Mourad, jeune femme yézidi dont la mère et les six frères ont été assassinés par Daesh et qui a servi, elle, d'esclave sexuelle aux djihadistes avant de s'enfuir. Tous deux ont été récompensés par le Nobel de la paix. Nous reviendrons sur leur parcours avec Christian Chesneau et nous entendrons le docteur Mukwege. Le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov cesse sa grève de la faim. Il refuse d'être alimenté de force, nous dira Claude Brouillot à Moscou. Aux États-Unis, nouvel épisode et nouvelle victoire pour le juge Brett Kavanaugh. Le Sénat américain vient de procéder à un vote qui ouvre la voie à sa nomination, peut-être dès demain. Explication de Loïc Loury à New York. En France, nous reviendrons sur l'hommage national à Charles Aznavour, auteur, compositeur, ambassadeur de la langue française. Lui qui fit des concerts à travers 82 pays, le président de la République lui a rendu hommage aux Invalides ce matin, récit d'Anne Fauquemberg. Et puis, est-ce une porte ouverte vers la légalisation de la GPA en France? La Cour de cassation examinait aujourd'hui l'un des cas les plus emblématiques, celui des époux Menson, dont les deux jumelles sont nées d'une mère porteuse en Californie. C'était en l'an 2000. Elle est une frêle jeune femme blanche de 25 ans, lui un homme noir, souvent décrit comme un colosse de 63 ans. Ils partagent une même cause, que les violences sexuelles cessent enfin d'être des armes de guerre sur la planète. Depuis ce vendredi, ils partagent également le prix Nobel de la paix 2018. Bonsoir Christian Chesneau.
Bonsoir.
Parlons d'abord avec vous de Nadia Mourad, la lauréate du Nobel. Elle est irakienne, elle appartient à la petite minorité yézidi. Elle entre dans l'histoire le jour où Daesh s'empare en 2014 du village où elle habite. Dans la région du Sinjar, elle devient alors une esclave sexuelle des djihadistes chrétiens. Et si elle peut témoigner aujourd'hui, c'est qu'elle a réussi à s'enfuir.
Exactement, parce que Nadia Mourad, c'est une survivante. Vous l'avez dit, quand les djihadistes de Daesh déferlent sur le nord de l'Irak en juin 2014, la jeune femme, comme bien d'autres d'ailleurs, est enlevée, violée, mariée de force et vendue comme esclave. C'est un véritable cauchemar. Les djihadistes s'acharnent particulièrement sur les yézidis, communauté à laquelle appartient Nadia Mourad, parce qu'ils les considèrent comme des hérétiques par rapport à l'orthodoxie sunnite. Nadia Mourad se retrouve prisonnière à Mossoul, capitale du califat autoproclamé. C'est de là qu'elle parvient miraculeusement à s'évader grâce à l'aide d'une famille musulmane de la ville. Avec des faux papiers, elle gagne le Kurdistan voisin. Depuis, son histoire a fait le tour du monde. Elle est désormais la figure emblématique de la cause des yézidis. La nouvelle prix Nobel de la paix ne cesse de répéter qu'il reste encore 3000 femmes de sa communauté portées disparues, dont certaines probablement captives.
Et justement, quelle est la situation de cette communauté des yézidis chrétiens?
Écoutez, c'est une communauté irakienne traumatisée qui a été saignée à blanc. Plus de 6400 yézidis auraient été enlevés par Daesh. Certains ont pu être secourus et ont pu fuir vers les provinces du Kurdistan irakien comme Nadia Mourad. Beaucoup ont été liquidés physiquement. D'autres sont regroupés aujourd'hui dans des camps de fortune. On estime que sur les 550 000 yézidis vivant en Irak avant la percée des djihadistes en juin 2014, près de 100 000 ont quitté le pays. Autant dire que ce prix Nobel est un formidable coup de projecteur sur cette minorité persécutée qui dispose aujourd'hui d'une jeune porte-parole reconnue mondialement.
Merci beaucoup Christian Chesneau. Et le président irakien nouvellement élu et d'origine kurde, lui, Bahram Saleh, a félicité Nadia Mourad, parlant d'un honneur pour tous ses compatriotes qui combattent le terrorisme. C'est la première fois que le Nobel de la paix revient à un ou une plutôt iranienne. L'autre lauréat du plus prestigieux des prix Nobel se consacre lui aussi à la cause des femmes violées en raison de la guerre qui ravage cette fois non l'Irak mais sa région, le Bukavu. Denis Mukwege est gynécologue. Après des études en France, il est retourné en 1989 en République démocratique du Congo. Et après la guerre, en 1996, il a ouvert son hôpital Panzi, où il découvre l'horreur des femmes victimes de viols de masse. Denis Mukwege recoue, répare, comme il dit, le presque irréparable. 40 000 patientes sont passées par ses mains après des viols. Et il se met aussi à parler des souffrances inouïes dont il est le témoin. Écoutons-le.
Quand j'ai opéré la première fois un bébé victime de viol, elle-même née d'une femme qui avait été violée, j'avais compris que j'étais dans un cercle vicieux qui n'avait pas de fin et qui, au lieu de continuer à traiter les conséquences, il fallait s'attaquer aux racines. Et les racines, en fait, c'était dire tout haut ce qui est peut-être... Certaines personnes connaissent et qui ne veulent pas qu'on puisse dire que c'est une guerre qui se fait sur le corps des femmes, c'est une guerre qui se fait contre les femmes qui sont finalement les mères de l'humanité. Et lorsqu'on détruit la mère de l'humanité, donc on est en train de détruire notre humanité commune.
Denis Mukwege qui se bat pour que le viol soit éradiqué comme arme de guerre au même titre que les armes chimiques ou nucléaires. Il était au micro de la Fondation Varenne et il se partage donc le Nobel de la paix avec la jeune yézidi Nadia Mourad. Lui aussi se bat pour la liberté des prisonniers ukrainiens, en l'occurrence. Le cinéaste Oleg Sentsov, en grève de la faim depuis plus de 4 mois, vient de cesser son jeûne. Accusé d'avoir planifié des attentats, incendié des bureaux en Crimée, le réalisateur a été condamné à 20 ans de prison après un procès qualifié de stalinien par Amnesty International. Claude Brouillot, vous êtes à Moscou. C'est l'administration pénitentiaire russe qui a annoncé tout à l'heure la nouvelle, mais on connaît la version, le mobile d'Oleg Sentsov.
Depuis plusieurs semaines déjà, Oleg Sentsov acceptait des compléments alimentaires sous forme de perfusions régulières. Et c'est ce mode de traitement que le cinéaste ukrainien dit ne plus pouvoir supporter, surtout si, comme il l'indique dans une lettre manuscrite aujourd'hui, ce traitement est amené à s'accentuer avec la dégradation de son état de santé. En annonçant que Oleg Sentsov arrêtait sa grève de la faim ce matin, le numéro 2 de l'administration pénitentiaire russe assurait lui que le plus célèbre de tous les prisonniers ukrainiens emprisonné au nord de la Sibérie, avait choisi la vie, une interprétation qui pouvait laisser entendre que le cinéaste originaire de Crimée ne demandait plus la libération de tous ses compatriotes détenus en Russie. Or, dans sa lettre d'aujourd'hui, Oleg Sentsov dit surtout qu'il est contraint de se réalimenter, mais en aucune façon qu'il renonce à son combat. Quant à la question de sa grâce par Vladimir Poutine, plusieurs fois évoquée, le Kremlin a toujours fait savoir que Oleg Sentsov devait en faire lui-même la démarche, ce que l'intéressé a toujours refusé.
Claude Brouillot à Moscou. Le jour anniversaire du hashtag MeToo. L'Amérique est suspendue au feuilleton Kavanaugh, dont un nouvel épisode vient de se jouer au Sénat. La candidature du juge Brett Kavanaugh, pourtant accusé d'agression sexuelle par plusieurs femmes, vient d'être approuvée. Loïc Loury, vous êtes à New York. C'est un vote de procédure, une première étape qui a eu lieu. Mais elle ouvre la voie à une possible nomination à la Cour suprême de ce juge, peut-être dès demain.
51 oui contre 49 non. Aujourd'hui, les Républicains ont obtenu ce qu'ils souhaitaient. 3 des 4 sénateurs déclarés indécis ont tranché en effet en faveur d'un dernier vote ce samedi. Désormais, les deux partis ont une trentaine d'heures pour faire les comptes avant cet ultime vote prévu demain après-midi au Sénat, celui de la confirmation pour le juge Brett Kavanaugh, car la partie n'est pas terminée. Susan Collins, républicaine par exemple, assure que son choix n'est pas définitif. Elle doit prendre la parole d'ailleurs d'ici quelques heures. Dire également de Joe Manchin, démocrate, il a voté oui par crainte de perdre son siège lors des mi-termes. Dans un mois, il devrait d'ici demain subir énormément de pression de la part de son camp. Enfin, les républicains pourraient devoir faire sans Steve Daines qui sera au mariage de sa fille. Il devrait s'en souvenir. Le parti de Donald Trump n'a donc qu'une faible marge de manœuvre et ne peut pas se rater demain au Sénat. Pour le président, cet échec est impensable. Ce serait peut-être le plus marquant de son mandat.
Loïc Loury est le président Donald Trump qui s'est dit très fier du Sénat américain tout à l'heure. Il devrait être l'un des hommes les plus protégés. Le patron d'Interpol, le chef de l'Organisation internationale de la police, a disparu. La France ouvre une enquête pour connaître le sort réservé à Meng Hongwei. Il est chinois, il assure la présidence tournante d'Interpol depuis 2016 et il devait se rendre dans son pays, en Chine, le 29 septembre dernier. Dominique André est à Pékin.
Le président d'Interpol a été emmené dès son arrivée à l'aéroport en Chine pour être interrogé. L'information est donnée en exclusivité par le grand quotidien de Hong Kong. Le South China Morning Post ajoute que Meng Hongwei fait l'objet d'une investigation par les autorités chargées de la discipline. Le patron d'Interpol, qui a été élu à la tête de l'organisation en 2016, est âgé de 64 ans, membre du Parti communiste. Il occupe toujours, selon le site du ministère de la Sécurité publique, la fonction de vice-ministre en Chine, mais il aurait perdu son titre de membre du comité du Parti communiste au sein du ministère de la Sécurité publique. Les dernières informations officielles le concernant en Chine font référence à une rencontre avec un haut responsable de Singapour le 23 août dernier. On ne sait pas pour quelle raison M. Meng a été arrêté et où il est retenu. Sa nomination à la tête de l'organisation avait fait beaucoup de bruit en 2016. Les défenseurs des droits de l'homme s'inquiétaient qu'il n'utilise cette fonction pour arrêter des fugitifs ou des dissidents chinois réfugiés à l'étranger.
Dominique André à Pékin. Lui aussi est porté disparu depuis 4 jours. L'éditorialiste saoudien Jamal Khashoggi, qui s'était montré critique envers le pouvoir du prince héritier d'Arabie saoudite. Ce journaliste a disparu en Turquie. Russie alors qu'il se rendait au consulat saoudien. Aujourd'hui même, l'association des journalistes arabo-turcs a manifesté devant cet édifice, le consulat, pour demander à la Turquie de mener une enquête sur cette disparition. Victoire juridique des militants écologistes à Hambach, en Allemagne. Première victoire pour sauver les 200 derniers hectares de cette forêt de Hambach, située près d'Aix-la-Chapelle. Le géant de l'énergie RWE voulait agrandir encore sa mine de charbon à ciel ouvert. Les pelleteuses auraient dû entrer en action d'ici 10 jours, le 14 octobre. Sur place, notre correspondant permanent, Ludovic Piétenu.
Déforestation interdite pour le moment, estime un tribunal de Münster. Il reste trop de questions juridiques en suspens dans d'autres recours déposés par cette même ONG, Bund. Le tribunal a besoin de temps. Et puis l'électricien RWE, propriétaire de cette parcelle de forêt, n'a pas prouvé de manière suffisante la nécessité d'arracher ces arbres, sans parler de la faune et de la flore à préserver, une espèce rare de chauve-souris que mentionne la décision de justice. La responsable de la politique climatique de cette ONG, Anne-Catherine Schneider.
C'est une victoire pour nous. C'est une victoire pour les organisations de protection de la nature en Allemagne. C'est un grand succès pour notre long combat contre le charbon et pour la sauvegarde de cette forêt d'Hambach. La forêt ne sera pas détruite cet hiver et puisqu'il n'est permis en Allemagne d'opérations de déforestation que d'octobre à février, nous avons sauvé cette forêt pour encore au moins un an.
Les militants écologistes veulent maintenir la pression sur le gouvernement régional de Rhénanie du Nord-Westphalie qui discute en ce moment de la meilleure façon de se passer du charbon. Ils maintiennent donc leur appel à une grande marche aux abords de cette forêt d'Hambach demain où ils espèrent réunir autour de 20 000 personnes.
Il était l'homme de 1400 chansons chantées dans plus de 80 pays, arménien de cœur, ambassadeur de la langue française. La France a rendu un hommage national solennel à Charles Aznavour ce matin. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir Tara, bonsoir à tous.
Le chef de l'État était, tout comme vous d'ailleurs, aux Invalides tout à l'heure. Il a prononcé un discours assez lyrique, Anne, à la veille d'ailleurs de son propre voyage en Arménie.
Oui, Emmanuel Macron est attendu la semaine prochaine au sommet de la francophonie à Erevan. Et cet éloge funèbre, il faut le replacer dans cette ambition du président de dépoussiérer à la fois l'institution et la notion, comme il l'avait fait d'ailleurs en mars dernier devant l'Académie française, annonçant une trentaine de mesures pour apprendre, communiquer et créer en français. À n'en pas douter, Charles Aznavour y contribuera comme il l'a toujours fait, explique le président.
Partout, il porta en français ses chansons auprès de publics qui percevaient dans notre langue des accents qui les touchaient. C'est que la langue française n'est pas seulement le ciment d'une nation, mais un ferment de liberté.
Les chansons d'Aznavour ne furent jamais ces rengaines d'un été qui amuse et qu'on oublie, dit Emmanuel Macron. Il cite l'indifférence ou encore le palais des chimères, la langue d'Aznavour qui se fait baume, remède pour le président. Mais une langue toujours ouverte, Aznavour y tenait, lui qui a été le conseiller de génération d'artistes, de Johnny Hallyday à la québécoise Linda Lemay, tout en passant par le slammer Grand Corps Malade ou encore le rappeur Oxmo Puccino, poursuit le chef de l'État.
Il écrivit jusqu'au bout pour les jeunes interprètes, car il savait que la culture, la langue, la musique française ne mourait que d'être privée d'oxygène, de renouveau, au nom d'une pureté fictive ou d'une vaine angoisse de certains.
Alors l'absence peut-elle se transformer en oxygène? Parfois, peut-être quand elle se fait grandeur. Et c'est donc porté par ce bel hommage national qu'Emmanuel Macron se présentera jeudi prochain devant la communauté mondiale francophone.
Anne Fauquemberg, merci. Ils se battent depuis 18 ans pour la transcription pure et simple en droit français des actes de naissance de leurs deux filles, des jumelles nées en Californie grâce à une mère porteuse. La GPA est autorisée dans cet État américain, mais pas aux États-Unis et pas en France, bien sûr. Le cas du couple Ménesson était examiné par la Cour de cassation aujourd'hui. Cette dernière a décidé de solliciter l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme. Bonsoir Antoine Maret.
Bonsoir.
Est-ce que cette décision est une étape vers la légalisation de la GPA en France?
Non, Tara, la GPA est et reste illégale en France. Pour la légaliser, il faudrait modifier la loi. C'est pour cela que des Français, homosexuels ou hétérosexuels, stériles le plus souvent, vont à l'étranger pour faire appel à une mère porteuse dans les pays où c'est légal. Et une fois que le bébé est né, quand ils reviennent en France, se pose alors la question de la reconnaissance par l'État français de cette filiation atypique. C'est l'histoire des époux Ménesson quand ils sont revenus des États-Unis avec leurs deux jumelles. Ils ont demandé la transcription pure et simple en droit français des actes de naissance de leur fille. 18 ans qu'ils se battent pour cela. Sylvie Ménesson n'est toujours pas officiellement aux yeux de l'administration française la mère de ses deux filles.
Ça fait 18 ans que ça dure et que vraiment, là, pour moi, je le vis comme un harcèlement judiciaire. Je suis désolée, mais pour moi, c'est pas normal qu'après 18 ans, ma fille est bientôt majeure, mes filles sont bientôt majeures, ce soit toujours pas fait. Ce n'est pas normal qu'un État ne soit pas capable de décider là-dessus. Là, je vois qu'on sursoit encore. On sursoit, on passe son temps à sursoir.
Effectivement, la Cour de cassation n'a pas tranché aujourd'hui sur cette question. Elle sollicite l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme sur la question du statut de la mère d'intention d'un enfant né grâce à une GPA. Ça n'en reste pas moins une demi-victoire pour l'avocat de la famille, maître Patrice Pinozzi.
Il faut bien voir dans cette décision une victoire d'étape pour la famille Menson. Jusqu'à présent, on expliquait aux Menson que le droit français était clair. Il y avait une possibilité d'établir la filiation paternelle, mais il fallait passer par une adoption pour la filiation maternelle. Cela n'est plus le cas aujourd'hui. Nous avons fait douter la Cour de cassation.
La Cour de cassation estime que la jurisprudence européenne est encore floue sur cette question de la mère d'intention. Elle demande l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme avant de trancher. En attendant, les deux filles Menesson restent des fantômes de la République.
Merci Antoine Marette. On va terminer comme tous les vendredis ce journal avec l'enquête de la cellule investigation de Radio France et avec Isabelle Souquet. Bonsoir.
Bonsoir.
Exit l'expression rue de Solferino, qui dans nos têtes à tous était jusque-là le synonyme du Parti Socialiste. En effet, dans quelques jours, le PS va quitter cet hôtel particulier du 7e arrondissement pour emménager dans ses nouveaux locaux en proche banlieue parisienne. Changement d'ambiance forcément et de décor pour un parti qui tente de se remettre de son plus gros revers électoral. Isabelle, vous êtes allée voir en coulisses comment le PS a passé cette année de transition.
Il faut dire qu'au soir des législatives, le PS touche le fond avec seulement 30 députés. Il est complètement exsangue. Jean-Christophe Cambadélis, l'ex-premier secrétaire du Parti Socialiste.
Le soir du deuxième tour des élections législatives, qui a clos la séquence commencée par les élections présidentielles, j'ai annoncé que je ne me représenterai pas au poste de premier secrétaire. Et je me suis retrouvé tout seul dans Solferino, vide, sans un coup de téléphone de personne. Dans cette soirée, non seulement j'étais battu aux élections législatives, ce qui n'est jamais agréable, mais en même temps, je me retrouvais sans aucune aide de rien pour décider l'avenir de cette formation qui a quand même structuré la vie politique depuis très longtemps.
Et les finances aussi sont complètement à sec. Comme la dotation de l'État aux partis politiques est calculée sur le nombre de voix aux législatives, c'est la débâcle. Le PS passe de 25 millions à 6 millions. Pas de quoi faire tourner la machine, constate l'ex-trésorier du parti, Jean-François Debat.
J'ai vite vu à ce moment-là que notre masse salariale était de 12 millions d'euros et nous allions avoir un budget d'environ 8. Donc on voyait très vite, il n'y a pas besoin d'être fort en maths, hein, que garder nos 100 quelques permanents avec, à 12 millions d'euros avec un budget total de l'ordre de 8, ça ne pouvait pas faire l'affaire et que nous devions engager rapidement une procédure de plan social.
Et ce plan va toucher plus de la moitié des 100 permanents qui travaillent au siège. Un choc pour des salariés qui pour beaucoup vivaient bien et qui n'imaginaient surtout pas vivre au PS, ce que d'habitude on vit dans de grandes entreprises privées. Le choc est rude et la famille de Solferino ne va pas y résister. Karine Gautreau, l'ex-chef de service presse et communication du PS.
L'ambiance à Solferino, dès le deuxième soir de la primaire, l'ambiance était exécrable, mais vraiment exécrable. Et les gens étaient dans une forme de haine les uns vis-à-vis des autres. Et quand tout le monde a compris qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que de licencier des gens, ça a été des vagues de haine et de croche-pieds non-stop à qui pourrait espérer sauver sa peau.
Et c'est dans cette ambiance que de nombreux permanents s'en vont et qu'on dégraisse aussi en région près de 80 emplois touchés. Trois fédérations sont amenées à vendre leurs locaux.
Alors au-delà des finances, et je le disais tout à l'heure Isabelle, le parti franchit aussi un pas très symbolique puisqu'il se sépare de son siège rue de Solferino.
Et Jean-Christophe Cambadélis s'est fait traiter de liquidateur, accusé de brader l'histoire du parti. Mais il faut vendre. Un appel d'offres est lancé avec une disposition bien particulière à laquelle les socialistes tiennent beaucoup, explique Jean-François Debat.
Nous avions une clause qui disait que nous pouvions refuser sans aucune explication à donner une offre quelconque. Et les critères que nous étions définis entre nous, des monarchies pétrolières, des milliardaires russes, des fonds de pension extrêmement ultralibéraux et extrêmement agressifs. Et finalement, nous avons eu plusieurs offres. Et la mieux disante était une grosse PME française qui fait de l'immobilier et qui a acheté ce siège.
acheté 45,5 millions d'euros, ce qui permet aussi au PS d'acheter un autre siège à Ivry en proche banlieue pour 10 millions d'euros. Un ancien bâtiment d'usine réhabilité, très lumineux, à la sauce start-up, en espérant au-delà du coup de com' que le parti saura s'y moderniser.
Merci Isabelle Souquet, votre enquête est à retrouver sur notre site franceculture.fr. La météo finit l'été indien, un samedi nuageux et pluvieux sur tout l'Hexagone. En Corse, l'alerte orange est même déclenchée dès ce soir jusqu'à demain. Pour alerte donc aux orages et aux inondations, il fera au mieux demain matin 5 à 15 degrés. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun.